Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ce matin, on m'a demandé si je voulais partager avec vous, pendant que nous passons en revue certaines des particularités qui sont précieuses au cœur du Master's College, au sujet de l'Église locale. La plupart d'entre vous savent, bien sûr, que ma passion est l'Église locale. Beaucoup d'entre vous étaient avec nous hier. Nous avons eu une journée absolument incroyable et inoubliable en remerciant le Seigneur pour 35 ans de ministère à Grace Church. On me demande souvent pourquoi je suis pasteur. Avez-vous lu l'article dans le journal The Signal hier? Comment pourriez-vous passer à côté? Quand j'ai été interviewé par l'écrivain pour cela, et quand j'ai été interviewé par l'écrivain qui a écrit l'article dans le Times il y a quelques semaines, je me suis rendu compte qu'ils veulent tous savoir pourquoi je suis dans le ministère. Certains d'entre eux m'ont demandé pourquoi je ne suis pas avocat, car il semblerait que j'apprécie discuter des choses. Certains d'entre eux disent « Je pensais que vous faisiez de l'athlétisme à l'université et que vous jouiez au football. Pourquoi n'avez-vous donc pas continué avec une carrière sportive ?» On m'a même demandé, après avoir été pasteur pendant tant d'années, « Pourquoi êtes-vous toujours pasteur ? Vous ne vous en lassez pas ? Vous pourriez être président d'une école, et cela ne suffirait-il pas pour occuper une personne normale ? Ou vous pourriez être un prédicateur radio et un enseignant, ou peut-être écrire quelques livres ? Pourquoi continuez-vous à être pasteur d'une église ? Les églises ne sont-elles pas des endroits où vous avez beaucoup de problèmes ? N'est-ce pas difficile de gérer des bénévoles ? Vous devez travailler avec les personnes que Dieu vous donne. N'est-il pas difficile de préparer deux sermons chaque semaine de votre vie et de les prêcher ? N'est-il pas difficile de vivre dans un bocal, comme un poisson rouge, d'avoir toute cette responsabilité et d'essayer de faire face aux péchés des fidèles, aux mariages brisés, aux familles en difficulté, aux enfants capricieux et à tous ces problèmes ? Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi l'Église est-elle si précieuse pour vous que, parmi toutes les choses que vous pourriez faire de votre vie, vous faites cela ? Alors que je me préparais pour le thème de l'Église ce matin, que je vais partager avec vous, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses à dire. J'ai écrit de nombreux livres sur le sujet. Hier soir, j'étais assis dans mon petit fauteuil bleu, et je parcourais certains de mes vieux livres, mes notes, etc. Et je disais, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ces jeunes pendant une demi-heure ce matin, à propos de l'Église qui va leur laisser une impression indélébile ? Je pourrais parcourir tout le livre des Actes, tout le livre des Éphésiens, ou quoi que ce soit, et essayer de dévoiler certains des principes. Nous pourrions parler de problèmes de direction d'église, de gouvernement d'église, de format, de ministère ou autre chose. Je me suis vraiment couché la nuit dernière, sans rien avoir en tête, parce que je n'arrivais pas à trouver ce que je devais partager. Je suis venu au bureau ce matin, et je me suis assis et je me suis dit, « Pourquoi suis-je dans l'église ? » C'est une bonne question. Voici la réponse que j'ai notée sur ce morceau de papier. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'aime l'église. Non seulement en tant que pasteur, mais en tant que chrétien. Quand je ne suis pas à Grace Church, quand je suis ailleurs en Amérique, je trouve toujours une église le jour du Seigneur. Si je ne prêche pas, ce qui est rare, je cherche une église où je peux simplement aller et assister. Je veux être dans une église. J'aime l'église. Je vais vous donner quelques raisons. La première raison pour laquelle j'aime l'église est qu'elle est la seule institution que Jésus construit et promet de bénir. Avec tout ce que Jésus aurait pu faire dans le monde, tout ce qu'il avait le pouvoir de faire, il n'a construit qu'une seule institution, c'est l'Église. Dans Matthieu, chapitre 16, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. » Vous savez, c'est une merveilleuse déclaration. Il n'a jamais dit qu'il construirait autre chose. Tout ce qu'il a dit qu'il construirait, c'est une Église, pas un collège, pas un ministère de radio. Il ne ferait que construire une Église. Une fois un journaliste m'a dit, Avez-vous le désir de construire l'Église? Votre Église grandit rapidement. Êtes-vous motivé par cela? Avez-vous un grand désir de voir l'Église grandir, de construire une Église? J'ai répondu, je n'ai aucun désir de construire l'Église. Il a demandé, pourquoi? J'ai dit, parce que Jésus a dit qu'il construirait l'Église, et je ne veux pas rivaliser avec lui. Je n'ai vraiment aucun désir de construire l'Église. Je n'ai jamais demandé au Seigneur plus de personnes à Grace Church que nous en avons. C'est assez de responsabilités déjà avec le nombre de ce que nous avons, sans avoir plus de responsabilités. Après tout, Hébreux 13 dit que je dois rendre compte à Dieu de ce que je fais. Je dois simplement laisser le Seigneur construire l'Église, et c'est une joie immense pour moi. Je ne fais pas partie d'une opération de construction humaine. Je n'ai jamais voulu arriver à la fin de ma vie, regarder en arrière et dire « Je me demande si j'ai fait ceci ou si Dieu a fait cela. Je suppose que j'ai eu peur de cela. Et c'est pourquoi je résiste vraiment aux gadgets, à l'intimidation, aux formules et aux stratégies de marketing. Il y a tout autre type de truc qui pointe le bout de son nez. Tout ce que je sais de l'Église, c'est que Jésus a dit qu'il allait construire son Église. Et la Bible dit qu'il va construire son Église par la puissance de la parole et la puissance de l'Esprit. Tout le reste peut aboutir à une institution construite par l'homme. Je ne veux pas arriver à la fin de mon ministère, regarder en arrière et dire « Était-ce Dieu ou était-ce moi? Est-ce qu'on a vraiment travaillé ensemble ?» Je veux pouvoir regarder en arrière et dire « Je n'ai prêché que la parole, c'est tout ce que j'ai prêché. Je dépendais de la puissance du Saint-Esprit, donc c'est son Église. Je ne veux pas du tout faire partie de ce que Dieu ne construit pas. » Une fois, on m'a demandé d'être président d'une autre institution, et j'ai dit « Je ne peux pas faire cela parce que je dois être pasteur d'une Église. Je dois être dans une Église. Je dois faire partie de ce que Jésus construit. Je peux côtoyer d'autres choses qui aident l'Église et renforce l'Église, comme le collège ou autre, mais la priorité de ma vie doit être l'Église. Savez-vous, les jeunes, la plupart des personnes qui sortent du séminaire ne font pas de ministère dans une Église. C'est incroyable. C'est pourquoi, au Masters Seminary, nous nous engageons à former des pasteurs, enseignants, qui peuvent exposer la parole de Dieu, en s'engageant dans la vie de l'Église. C'est l'aventure la plus excitante, créative et palpitante que l'on puisse entamer. Accompagner Christ alors qu'il bâtit son Église, ou, comme Denise l'a chanté, il construit son royaume. Deuxièmement, j'aime l'Église parce que l'Église va finalement gagner. Je suis du côté d'un gagnant. Beaucoup de personnes démarrent des entreprises qui échouent, vous le savez. Beaucoup de personnes consacrent leur vie à une carrière et se retrouvent avec peu ou rien à la fin. Certaines personnes décident de se lancer dans les finances et les investissements, et elles perdent tout. D'autres personnes décident qu'elles vont créer une entreprise, et cela va mal. Encore d'autres personnes entrent dans une carrière, et après quelques années, cela devient fastidieux et insipide. Ce n'est plus une aventure, ça n'a pas vraiment d'importance, et qui s'en soucie? Il n'y a pas de valeur durable, et rien de garantit qu'il aura un impact majeur sur l'amélioration de la société. Mais je vais vous dire ceci, versez votre vie dans l'Église, et vous ferez partie des gagnants. Parce que Jésus a également dit, « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'Hadès ne la domineront pas. » Les portes d'Hadès est une déclaration juive faisant référence à la mort. Les portes d'Hadès sont simplement un symbole de mort pour les Juifs. Jésus dit, « Je bâtirai mon Église, et la mort ne m'arrêtera pas. » Vous voyez, la mort est l'arme la plus puissante de Satan. Il l'a d'abord utilisée pour Christ. Il pensait que, s'il pouvait tuer le constructeur de l'Église, il pourrait tuer l'Église. Mais le constructeur est sorti de la tombe. Puis, non seulement cela, mais tout au long de l'histoire de l'Église, Satan s'est efforcé d'anéantir l'Église. Il a massacré l'Église, tué l'Église. Des personnes sont mortes en martyrs et, à ce jour, elles meurent encore en martyrs pour la cause de Jésus-Christ. L'arme la plus puissante que Satan possède, cependant, ne peut pas éradiquer l'Église. Et tout étudiant de l'histoire de l'Église vous dira que le sang des martyrs devient la semence dans laquelle l'Église fleurit. Jésus a dit, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je n'en perdrai aucun. Satan ne saisira personne de ma main. Tous ceux que le Père a décidé de racheter seront rachetés, et personne ne se perdra dans le processus. » Puis Jésus a dit dans Jean 6, « Je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque sur qui le Père met sa main viendra à moi. » Tous ceux qui viennent à moi, je les retiendrai, et tous ceux que je détiens seront ressuscités au dernier jour. l'Église sera victorieuse. C'est pourquoi, si vous lisez le chapitre 12 d'Hébreux, vous voyez l'Église, les premiers-nés, triomphalement dans le ciel, et ils vont être tous là, triomphants, dans la gloire. Vous lisez l'Apocalypse, chapitre 4, et vous voyez l'Église représentée par les 24 anciens qui chantent. Louange à l'agneau, digne est l'agneau qui a été tué, ils sont là dans la gloire. Je fais partie de quelque chose qui est éternel. Je fais partie de quelque chose qui est gagnant dans le sens où c'est éternel. Je verse ma vie dans l'Église que Jésus construit, et l'arme la plus puissante de Satan, la mort, ne peut même pas l'arrêter. Un jour, l'Église sera totalement intacte, sans personne de perdu, mais tous ceux que le Père attire viennent et sont gardés par Christ, et rien ne les séparera de son amour, mais ils demeureront avec lui pour l'éternité, alors que l'Église se glorifie et triomphe. Je serai là, et vous qui aimez le Christ, vous serez là. Nous serons les gagnants. Nous hériterons la gloire pour toujours et à jamais. J'ai toujours voulu être du côté des gagnants. Cela n'a pas toujours été le cas, mais je le suis cette fois. La troisième raison pour laquelle j'aime l'Église, c'est parce que c'est la possession la plus précieuse que Dieu ait sur la terre. Vous dites, comment savez-vous cela? Parce que dans Actes 20-28, nous lisons ceci. Prenez donc garde à vous-même, parlant aux anciens de l'Église d'Éphèse. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Écoutez, pour paître l'Église du Seigneur, puis ceci qu'il s'est acquise. Comment? Par son propre sang. Quelle est la valeur de l'Église? Pierre dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Dieu a payé le prix infini. Quoi, dit Paul aux Corinthiens charnels. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu? Et vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté. Comment? Un grand prix. Jésus-Christ lui-même connaissait le prix. Il le savait en s'agenouillant dans le jardin cette nuit-là, avec les disciples endormis. Il a dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'est plus que je ne peux supporter, le fait de verser mon sang, alors que ma vie est ôtée par le poids des péchés du monde. J'aime l'Église. J'aime l'Église parce que Christ aimait l'Église, et il l'aimait suffisamment pour donner son sang pour elle. Je n'aime pas quand les personnes parlent contre l'Église ou diminuent l'Église. C'est la seule institution que Jésus construit, la seule qu'il promet de bénir, et c'est une gagnante. Toutes les autres institutions et associations prendront fin. Et l'Église triomphante occupera les gloires du ciel éternel. Le prix, inestimable, dépasse toute croyance. Voilà à quel point l'Église est précieuse. Il y a une quatrième raison pour laquelle j'aime l'Église. Je l'aime parce que c'est l'expression terrestre du royaume céleste. C'est la chose la plus proche. Êtes-vous prêt pour cela? C'est le paradis sur terre. Vous souvenez-vous dans Matthieu lorsque Jésus prononçait le sermon sur la montagne, et il a dit, c'est ainsi que vous êtes censés prier. Vous souvenez-vous de cela? Comment sommes-nous censés prier? Notre Père qui es aux cieux, dites-le avec moi. Que ton nom soit sanctifié. Arrêtez-vous là. Que ton royaume vienne. Maintenant la ligne suivante. Que ta volonté soit faite. Et la suite, sur la terre comme au ciel. Maintenant où pensez-vous que la volonté de Dieu va se faire sur la terre comme au ciel? Où? Au gouvernement? Dans le système éducatif? Dans notre système de valeurs morales? Non. Il n'y a qu'un seul endroit où la volonté de Dieu dans le ciel se fait sur la terre. Où est-ce? Dans l'Église. Dans Matthieu, chapitre 18, il y a un passage très important sur l'Église, et je veux juste vous le mentionner. Je ne veux pas prendre le temps de tout dévoiler. Matthieu 18:15 dit ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est assez simple, n'est-ce pas? Les personnes disent parfois, « Que dois-je faire si je surprends un chrétien dans le péché? Allez vers lui et dites-lui qu'il pêche, c'est assez clair. Allez le voir en privé et dites, « Vous péchez. » Vous dites, « Vraiment? » Oui, c'est vrai. S'il vous écoute, vous avez gagné votre frère. Je suis sérieux. Vous gagnerez vraiment votre frère si vous allez le voir en privé pour l'affronter avec son péché. Vous allez gagner votre frère. Récemment, j'ai reçu un appel téléphonique d'un ami cher, et il a dit, « J'ai un ami, tu l'as baptisé, il a quitté sa femme, et il vit avec une autre femme. Que faisons-nous ? J'ai dit, je te rencontrerai samedi matin à l'église à 9 heures, et nous irons, nous, le confronter. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas trop difficile à interpréter, n'est-ce pas ? Nous sommes donc allés jusqu'à sa maison. Il revenait chez sa femme d'où il était parti pour être avec une autre personne. Nous étions tous dans le salon. Nous nous sommes garés au coin de la rue parce que nous pensions qu'il pourrait s'échapper s'il voyait une voiture familière. Nous étions donc assis dans le salon quand il est entré pour ramasser certaines de ses affaires. C'est un choc d'avoir John MacArthur assis dans votre salon lorsque vous êtes engagé dans l'immoralité. Il entre et dit « Bah, bah, il ne pouvait pas parler. » Il a dit « Que faites-vous ici ?» Nous l'avons confronté. Il a pleuré et il a dit « Je veux me repentir. Je veux faire ce qui est bien. » Donc, je n'ai jamais eu de relation très étroite avec lui. Mais maintenant, il m'appelle 3 fois par semaine, parce que je lui ai dit « Tu dois m'appeler 3 fois par semaine et me dire que tu vis une vie pure. » Sa femme n'était pas chrétienne. Elle ne voulait pas le reprendre. Il avait passé 1 an à essayer de vivre la vie chrétienne, puis il a brisé le témoignage. Mais il y a un sens dans lequel il y a un lien entre nous deux maintenant, qui n'a jamais existé auparavant. Maintenant, que se passe-t-il si votre frère n'écoute pas ? S'il dit « Vous savez, ça ne m'intéresse pas, fichez-moi la paix. » Ensuite, vous prenez 2 ou 3 témoins et vous vous liez contre lui. S'il n'écoute toujours pas, le verset 17 dit « Dites-le à toute l'Église. » Vous dites « Pourquoi le dire à toute l'Église ? » Alors ils peuvent tous se liguer contre lui. S'il n'écoute toujours pas, vous le mettez dehors, comme s'il était un non-croyant. Vous dites « C'est dur ». Je veux dire, vous ne pouvez pas simplement observer toute l'Église en regardant les personnes pour leur dire « Vous péchez, vous feriez mieux de vous repentir. » Je vais le dire à toute l'Église. Je me souviens quand nous avons commencé à suivre l'Évangile de Matthieu, il y a 18 ou 20 ans, et un pasteur m'a dit « Tu vas vider l'Église, les personnes ne vont pas supporter cela. » C'était quand nous avions 500 personnes. Nous ne l'avons pas vidé, nous avons juste suivi les instructions, et Dieu a béni. Parce que je crois que les vrais chrétiens détestent leurs péchés, et la responsabilité de ce genre de confrontation vous garde pur. Vous dites, c'est difficile à faire. Je veux dire, qui suis-je pour faire cela ? J'ai mes propres problèmes. Alors réglez vos propres problèmes, voulez-vous ? Vous dites, je ne peux pas aller vers lui, j'ai une poutre dans mon œil. Bon, enlevez-la, et là vous pourrez aller confronter votre frère. C'est donc une sorte d'auto-purification. Vous dites, sommes-nous vraiment censés faire cela ? Oui, pourquoi ? Verset 18, voilà pourquoi. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En d'autres termes, si vous dites, maintenant, qu'est-ce que tu veux dire par lié et délié ? C'est un vieux terme rabbinique. Dire que quelqu'un était lié signifiait qu'il était toujours lié par son péché. Il ne s'était pas repenti. Il ne l'avait pas relâché. Dire que quelqu'un était délié signifiait qu'il s'était repenti, avait cédé et avait abandonné ce péché. Alors il a dit, « Regardez, si vous allez vers la personne, que vous la confrontez, et elle dit, « Je vais continuer à pécher, je me fiche de ce que vous dites. » Vous dites, « Alors vous êtes toujours lié par le péché. Cela a déjà été dit au ciel. Le ciel a déjà porté ce jugement. Comprenez-vous cela ? Tout ce que vous liez est dites. Vous êtes toujours lié à cela ? Ça a été lié au ciel. Donc vous faites simplement sur terre ce que le ciel a quoi ? Déjà fait. Si vous allez vers la personne, et elle se repent et confesse son péché, l'abandonnant, vous dites, vous êtes délié de votre péché parce que vous vous êtes repenti et l'avez confessé. Ensuite, ce que vous dites à propos de sa libération a déjà été dit au ciel. Vous savez ce que vous faites ? Vous faites sur terre ce qui a été fait où ? Au paradis. C'est ainsi que le royaume fonctionne sur terre. Nous essayons de reproduire le royaume dans la vie de l'Église. Il continue au verset 19. Il dit, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, écoutez ceci, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Dieu sera avec vous. Dieu, parce que Dieu veut que cela se fasse sur la terre comme au ciel. Vous pensez qu'il tolère le péché dans l'Église au ciel ? Est-ce possible ? Non. Vous pensez que Dieu peut tolérer le péché dans l'Église sur terre ? Non. Il ne l'aime pas ici non plus. Donc il dit, « Si vous allez simplement vous en occuper, je vous accompagnerai. » il va plus loin dans le verset 20. Il dit « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Jésus dit « Je suis au milieu d'eux ». Vous avez l'approbation de Dieu, la présence de Christ, et quand vous traitez le péché dans l'Église sur terre, vous faites sur terre ce que le ciel a déjà fait. Vous transformez l'Église comme au paradis, vous purifiez l'Église comme le ciel est pur. Vous voyez, l'Église est l'expression terrestre du royaume céleste. Je veux vivre dans l'Église. Je veux faire partie de l'Église. Je veux être là chaque fois qu'ils ouvrent les portes, parce que c'est ma place. Je ne veux pas être qu'un participant au paradis, n'est-ce pas? Je ne veux pas visiter le paradis. Je veux y aller et rester. Je veux vivre dans le royaume. C'est pourquoi j'aime l'Église. Vous dites, l'Église n'est pas si bien. Eh bien, ce n'est pas ce qu'est le ciel, mais c'est beaucoup mieux que toute autre institution humaine. Et je veux donner ma vie pour qu'elle ressemble le plus possible au ciel. Il y a une autre raison pour laquelle j'aime l'Église. Non seulement parce que c'est la seule institution que Jésus a construite et promis de bénir, parce qu'elle sera victorieuse à la fin, parce qu'elle est la chose la plus précieuse sur terre, et l'expression terrestre du royaume céleste, mais parce que c'est le lieu du culte. Oh, je sais que je peux adorer Dieu dans mon esprit. Philippiens 3:3 nous dit que nous adorerons Dieu dans l'esprit. Je le sais. Je peux adorer Dieu dans mon propre cœur tout seul. Mais il y a quelque chose qui me sort absolument de moi-même lors du culte en commun, n'est-ce pas? Lorsque Denise chantait ce matin, « Le désir de mon âme est de te servir. » Je veux dire, j'ai senti des larmes dans mes yeux, vous aussi, parce que je ressentais avec vous le sens des responsabilités que nous avons tous, afin de donner notre vie entière avec une totale dévotion au Christ pour le servir. Ce genre de dynamique d'entreprise qui se produit lorsque nous nous réunissons ici, vous n'allez pas avoir cela en vous asseyant seul dans votre dortoir. Il y a une dynamique. C'est pourquoi dans Hébreux 10, il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée. Pourquoi ? Parce que vous vous stimulez mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres dans la dynamique d'un culte ensemble. J'ai besoin de cela. J'ai besoin de m'asseoir sur le banc et j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu me parler avec quelqu'un assis à côté de moi qui me connaît très bien afin qu'il sache que je le sais et qu'ils peuvent me tenir responsable pour ma façon de vivre, n'est-ce pas ? Vous dites « Je ne vais pas à l'église. J'achète des cassettes de John MacArthur » et de Chuck Swindoll. Fichez-moi la paix. Vous pouvez écouter une cassette de John MacArthur, de Chuck Swindoll, et personne au monde ne sait que vous êtes responsable pour ce que vous avez entendu, parce que personne ne sait que vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Votre responsabilité vient des relations. C'est ce qui est si mauvais, comme l'a dit Martin Marty, à propos de monsieur et madame Religion Invisible, qui sont assis à la maison et regardent la télévision, et c'est leur église. Vous avez besoin d'être tenu responsable pour votre comportement, d'être assis juste là avec les personnes qui vous connaissent, qui savent maintenant ce que vous venez d'entendre, et vous êtes tenu de le vivre. Il n'y a pas de substitut pour l'Église. C'est une raison pour laquelle nous avons un culte. Nous savons tous que vous savez tout ce qui a été dit. C'est donc un lieu d'adoration. C'est un lieu d'édification. C'est un endroit pour enseigner. Nous y venons pour la louange et l'édification. Certaines personnes pensent aujourd'hui que l'Église est un lieu pour les non-croyants. Je ne le crois pas. Il n'y a pas un mot dans le Nouveau Testament qui dit qu'un service religieux doit être conçu pour un non-croyant. Pas un mot, c'est vrai. Nous ne consommons pas de service religieux pour les non-croyants. Nous ne nous réunissons pas pour l'évangélisation. Nous nous réunissons pour l'édification et l'adoration. Et nous nous dispersons pour l'évangélisation. Nous ne nous réunissons pas pour prêcher encore et encore le simple évangile, pour trouver un moyen de divertir les non-croyants. Ce n'est pas le but de la réunion de l'Église. L'Église se rassemble afin qu'elle puisse adorer Dieu en groupe et se stimuler mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. L'Église doit être édifiée et responsabilisée par la vérité qu'elle entend, puis elle se disperse pour toucher le monde. Dans 1 Corinthiens, il y a un commentaire très intéressant dit par l'apôtre Paul. Je pense que la plupart des personnes ne l'ont jamais remarqué. Vous vous glissez par-dessus. Il regarde l'Église corinthienne, qui est un chaos total, et il dit « Si donc, verset 23, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, n'est-ce pas là une déclaration intéressante ?» Il dit « Écoutez, si vous allez à l'Église et que tout le monde parle en langue, que se passera-t-il si un incroyant entre ? Vous savez ce qui m'a frappé en premier ? L'enseignement de l'Église n'est pas pour les non-croyants. Mais imaginez que l'un devient, c'est possible. Je veux dire, ce n'est pas comme si c'était le but, n'est-ce pas? Vous dites, qu'allez-vous faire si un non-croyant se présente? Comme quelque chose d'étrange, mais cela pourrait arriver. Nous ne nous rencontrons pas pour les non-croyants. Si le non-croyant entre, et que vous parlez tous en langue, il va dire, ces personnes sont folles. Tout le monde parle en langue. Mais si tous prophétisent, qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas une expérience extatique ésotérique. Cela signifie que si vous déclarez la vérité de Dieu, s'ils entrent et que quelqu'un enseigne la parole et déclare la parole, alors un non-croyant va entrer et il va être convaincu par la dévotion de tout le monde à la parole de Dieu. Il va être appelé à rendre des comptes par tout le monde. Les secrets de son cœur sont révélés. Il tombe à genoux et adore Dieu en disant « Waouh, Dieu est ici ». Vous n'avez pas à créer une sorte de zone de confort pour les non-croyants en essayant de les attirer à l'Église. Mais s'ils viennent, s'ils écoutent votre adoration et entendent la parole puissamment enseignée, et qu'il n'y a aucun pouvoir comme la parole, plus tranchant que n'importe quelle épée à deux tranchants, et s'ils voient que vous vous soumettez tous à la parole et que vous adorez tous Dieu, il va tomber à genoux et dire « Dieu est ici, c'est incroyable ». Il y a quelques dimanches, certains d'entre vous étaient là dimanche soir. Je pense que c'était avant la rentrée scolaire. Un jeune homme est entré par le baptisphère. Il était homosexuel, mourant du sida. Et il a dit, « J'ai erré à l'arrière de cette église par hasard tout seul. » Il a dit, « John, la première chose que vous avez faite a été de vous lever et de lire le psaume. Un psaume que je n'ai jamais entendu de ma vie. » Puis il a récité 10 versets textuellement qu'il avait mémorisés dans ce psaume. Il s'agissait de briser les chaînes, de libérer les prisonniers, et de donner vie à ceux qui sont au bord de la mort. Il a dit que les larmes ont commencé à couler sur son visage. Il a assisté à ce culte. Il a regardé un peuple qui adorait Dieu, a entendu que Dieu est un Dieu qui délivre, guérit, restaure, libère. À la fin de ce culte, il a donné sa vie à Jésus-Christ, il y a 3 semaines. Il a dit, « Non seulement je n'ai pas eu de rencontre homosexuelle, et ils en ont parfois jusqu'à 5 par jour, mais je n'ai aucun désir pour cela. » Et je n'en ai plus jamais eu depuis le moment où j'ai donné ma vie à Christ. Nous n'avons pas créé de culte pour les homosexuels, ou pour que les homosexuels se sentent aimés et à l'aise. Un homosexuel a écouté la puissance de la parole de Dieu et le culte collectif du peuple de Dieu, et il est tombé à genoux pour adorer Dieu. C'est pourquoi j'aime l'Église. C'est un lieu de culte, et c'est un lieu d'édification. Puis, un dernier point, c'est le point de départ de l'évangélisation mondiale. C'est le point de départ de l'évangélisation mondiale. Vous allez dans le livre des Actes du Nouveau Testament, et je ne prendrai même pas le temps de le parcourir, et vous constaterez que c'est l'Église qui a envoyé tous les missionnaires. Il y avait toujours ce genre de responsabilité, il y avait toujours ce genre de connexion avec l'Église locale. Ils étaient là. Lisez Actes, chapitre 13. Ils étaient là. Paul et Barnabas, avec 3 autres pasteurs dans l'Église d'Antioche. Il y avait 5 de ces hommes. Ils étaient juste en train de prêcher à l'église d'Antioche. Et tout à coup, alors qu'ils se rencontraient et partageaient, l'Esprit de Dieu a commencé à motiver leur cœur. Et le message venant de l'Esprit était « Séparez deux de vos hommes, Paul et Barnabas, et envoyez-les dans le monde. » Ils sont sortis de l'église locale, et l'évangélisation mondiale a commencé. Mais ce n'était pas seulement pour ce genre unique de personnes. C'était pour tous ceux en qui habitait l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus a dit dans Actes 1:8, « Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Où ? Dans l'Église ? Dans l'entrée à l'accueil ? Non. À Jérusalem ? Dans toute la Judée, dans la Samarie, et où ? Jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église est le point de départ de l'évangélisation mondiale. J'aime beaucoup être président d'un établissement d'études supérieures. Je l'aime parce que je vous aime. J'aime voir Dieu changer vos vies. C'est juste une joie sans fin. J'aime bien le frisson, l'excitation et l'aventure de voir Dieu construire cet établissement. J'aime faire le ministère de la radio, parce que j'aime enseigner, et j'aime écrire des livres, parce que j'aime simplement dire la vérité et la diffuser. Mais si je perdais tout cela, je serais complètement épanoui dans l'amour de l'Église, déversant ma vie dans cette glorieuse institution. Les jeunes, j'espère que vous saisissez ma passion pour l'Église, et j'espère que vous aimez l'Église. Jésus l'aimait suffisamment pour lui donner son sang. Inclinons-nous dans la prière. Père, merci pour l'Église. Merci de nous permettre d'en faire partie. Une personne qui n'est pas dans l'Église n'est pas réellement un chrétien. Il y a par contre des chrétiens qui ne semblent pas comprendre à quel point c'est précieux pour toi. Fais-nous des hommes et des femmes de l'Église, qui l'aimons malgré toutes ses imperfections, toutes ses faiblesses. L'Église n'est pas un endroit parfait, nous le savons. Mais c'est certainement un hôpital pour les personnes qui savent qu'elles sont malades et qui savent qui est le guérisseur. Merci de nous permettre d'en faire partie. Au nom de Jésus, amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.